C'était un écrivain qui combattait pour la France, mais pas là où ses lecteurs l'attendaient.
Il dit qu'il n'est pas écrivain, tout le temps. Il dit qu'il n'est pas écrivain. Et sur le tard, je crois qu'il écrit une lettre où il dit qu'on le regarde comme un vagabond. C'est un errant. C'est le chevalier errant, vraiment.
Prénom ?
Georges.
Nom ?
Bernanos. Consonance espagnole mais ascendance lorraine.
Date de naissance ?
2 février 1888.
Sa famille ?
Le père, décorateur de son état, mène la même vie que sa riche clientèle. Tout ce petit monde est catholique, monarchiste et baigne dans un antisémitisme atmosphérique.
Ses études ?
Aussi heurtées que son tempérament batailleur. Au quartier latin, il bat le pavé avec les Camelots du Roi, l'organisation de jeunesse de l'Action française.
Il participera à la Grande Guerre ?
Tout du long, dans des positions diverses, il en rapporte la Croix de Guerre et une sainte horreur des banquets commémoratifs.
Il est marié ?
À Jeanne Talbert d'Arc, qui se targue d'appartenir à la famille de Jeanne d'Arc. 6 enfants constitueront une tribu bruyante qu'il faudra nourrir. Dans un premier temps, il accepte un poste de démarcheur en assurance. Il l'abandonnera dès que son roman, Sous le soleil de Satan, remporte le succès en 1926. S'ensuivra une existence sans filet, scandée par peut-être 30 déménagements.
Quelles sont ses œuvres principales ?
De nombreux romans, en tête desquels Le journal d'un curé de campagne. Des essais de combat, parmi lesquels Les grands cimetières sous la lune pendant la guerre d'Espagne et La France contre les robots au lendemain de la Seconde Guerre.
D'autres engagements politiques ?
De nouveaux engagements à partir de la guerre d'Espagne, l'antifranquisme, puis la France libre. Au retour d'un long exil au Brésil, il n'acceptera aucune prébende du général de Gaulle.
Et sa mort ?
Il était cabossé depuis longtemps par des accidents de moto, il s'appuyait sur 2 cannes. Il meurt le 5 juillet 1948, mais 2 chefs-d'œuvre paraissent encore de manière posthume, Les enfants humiliés et Dialogue des Carmélites.
France Inter, Intelligence, Service, Jean Lebrun.
Sachez, monsieur Lebrun, que tout ce que vous dites est enregistré. Et pour commencer, pouvez-vous nous donner des éléments qui expliquent l'ouverture de ce dossier ? Je vous écoute.
C'est un écrivain formidable. Il considère que chaque mot pèse son poids. Qu'il en est responsable, mieux que chaque mot, c'est comme sa dernière cartouche. Ça ne va pas être facile de parler exactement de lui. Il a été toujours en mouvement, il n'a pas laissé de bibliothèque ni d'archives. La correspondance qu'il a pu entretenir a été publiée dans le plus grand désordre. Et de sa voix, il ne reste guère d'enregistrement. Si, cette conférence échevelée à Genève 2 ans avant sa mort.
Mesdames, messieurs, je ne pars pas sans réflexion. Je sais très bien que le moment n'est pas venu de dire aux hommes de bonne volonté certaines vérités libératrices. Mais je veux précisément les dire, à l'heure où elles sont le moins opportunes.
Peut-on revenir, monsieur Lebrun, à la biographie de Georges Bernanos, qui affirmait vouloir vivre à la hauteur de l'enfance qu'il avait vécue?
Oui, parce que, hélas, le monde vieillit les enfants et qu'il faudrait pouvoir retrouver ce qu'on a été. S'il est une terre de certitude pour Bernanos, toujours prêt dans sa vie adulte à appareiller, c'est la grande maison familiale. Le père, fortune faite, a cru pouvoir y vivre de ses rentes. Il l'a peuplée de beaux meubles qui brillent sous la cire, de livres aussi. C'est en Artois, une demeure robuste, mais qui laisse passer la lumière. Notre premier interlocuteur, ce sera François Angelier. Il vient de faire paraître une biographie puissante de Bernanos et il l'a décrit ainsi, cette maison d'enfance.
Pour Georges Bernanos, ce sera beaucoup plus qu'une villégiature, ce sera véritablement, on peut le dire, l'Éden. Et avant Fressin, la vie est ce qu'elle est. À Fressin, on est véritablement dans un sentiment paradisiaque. C'est-à-dire que tout ce qu'il aime, tout ce qu'il veut faire, il y a une sorte d'épanouissement général de l'enfant Bernanos, qui, comme le dit sa mère, se donne à... Que ça en est presque effrayant. Et donc Bernanos gardera de Fressin le souvenir d'un paradis. mais véritablement d'un lieu d'élection, de bonheur, de joie, et qu'une fois qu'on quitte Fressin, eh bien on redevient un enfant malade, un enfant mélancolique, un enfant triste. On redevient Georges Desvilles. Donc il y a Georges Desvilles, qui est un petit Parisien souffreteux et mauvais élève, et Georges Deschamps, qui est une sorte de petit chevalier cavalcadant dans les guérets, dans les bois, dans les champs, parmi les haies, et qui restera mais quasiment traumatisé, par le, on peut le dire, par le bonheur qu'il a vécu à Fressin.
La vocation de Bernanos écrivain ne va éclore que beaucoup plus tard, longtemps inscolarisable, longtemps aspiré par la mêlée politique du Quartier Latin. Longtemps requis sous les drapeaux, Bernanos ne va publier vraiment qu'à la fin de la trentaine. Il a pendant quelques années installé sa famille qui grandit dans une maison de la haute ville de Bar-le-Duc, non loin de la statue de l'écorché vif de Ligier Richer. De là, il circule pour faire le placier en assurance. Il fréquente les restaurants médiocres, les hôtels sans confort, mais dans la serviette qu'il traîne au milieu des liasses de contrats, il y a les feuillets raturés de « Sous le soleil de Satan », le roman qui va le faire connaître du jour au lendemain en 1926. L'un de ses personnages principaux, avec Mouchette, en est l'abbé Denisson, un de ses prêtres dont Bernanos aura le secret. Malgré ses gros souliers, sa maladresse, Denisson est appelé à devenir un saint. Mais à la limite des ténèbres, il lui faut d'abord rencontrer le malin.
Le bon Dieu vous récompensera de votre peine. C'est lui qui vous a mis sur mon chemin.
Appuyez-vous sur moi. Ne craignez rien.
Et là, brusquement, le diable se manifeste sous une forme, je dirais, qui se désisse. C'est un peu comme un oignon. Il se déshabille, il se libère de toute comédie, il rompt avec sa jovialité, et après, il affronte l'abbé.
Je vais te quitter. Cervelle de boue, chien couchant, bête soumise. Allez, ça suffit. Allez, il faut nous quitter.
Qu'en voulais-tu cette nuit ?
Je voulais t'éprouver, dès cette nuit et jusqu'à ta mort.
L'épreuve vient de Dieu. Je l'attendrai. Je l'attendrai. Je ne veux pas la prendre maintenant. Surtout d'une telle bouche.
On a peur quand on nous voit. Hein ? Regarde-moi. Regarde-moi. Regarde-moi bien en face. Tu vas te reconnaître. Vois comme tu es transparent.
Retire-toi, Satan.
C'est un moment extraordinaire puisque Bernanos ira encore plus loin. Mais ce premier diable est un diable, d'abord c'est le grand retour du diable en littérature, 1926, à une époque où les diableries sont éventuellement amusantes mais que ne vont pas beaucoup plus loin. C'est donc les années folles, l'époque du surréalisme, sur le toit et tout ça, c'est pas véritablement les angoisses démoniaques qui ravagent le milieu artistique. Et donc la Bernanos invoque pour la première fois depuis quand même plusieurs décennies une espèce de figure du malin qui n'est pas une figure pittoresque, qui est une figure angoissante, une figure violente, et donc qui renouvelle complètement l'image du diable.
Deux ans plus tard, avec son journal d'un curé de campagne, Bernanos réussira à faire d'un prêtre catholique un héros littéraire universel, comme Don Quichotte, Faust, Joseph K. de Kafka, Bardamu de Céline. C'est le livre dont l'écriture lui a été presque facile, parce que généralement son travail est ingrat. À Paris, l'éditeur Plomb guette l'arrivée des manuscrits. Il paye à la page. De son côté, Bernanos compte. Pas de page, pas de pain. Il se sent toujours en état d'urgence parce qu'il lui faut nourrir sa tribu. Et va-t-il la transbahuter encore dans une autre maison? Parce que le déménagement sera son mode de vie.
Et donc Bernanos quitte Bar-le-Duc et va s'installer, alors là, aux confins des Pyrénées, dans une villa du côté de Saint-Jean-de-Luz, où là, véritablement, on trouve les critères de base de la maison bernanosienne. Elle est grande, elle est ample, puisqu'il faut y loger quand même 8 personnes, enfin, à part à l'époque, il n'y a pas ses enfants, mais disons, au moins, il y a les parents de Bernanos qui vont venir les rejoindre, donc rapidement, c'est 6 ou 7 personnes. Cette maison doit être grande, elle doit être un peu comme les châteaux des familles des argentés, de l'aristocratie, d'un ancien confort ou d'un confort limité. Il y a quand même des obligations. Il faut absolument qu'il ait capacité de s'isoler 7 à 8 heures par jour dans un café pour pouvoir y écrire son article quotidien, article qui fait vivre toute la couvée. Donc ça, c'est important. Ensuite, là, il a également capacité à recevoir la presse qui est son unique lien avec le monde, et puis à être baigné par cette rumeur, cette circulation comme ça de l'humanité, être parmi les humains, et au sein de ce biotope, comme on peut le dire, il s'isole, il se reclut en lui-même et il écrit.
De plus en plus, il fourrage dans les journaux où il trouve sa pitance d'auteur comme de lecteur. L'événement va de plus en plus commander à sa littérature. L'été 1936, il est établi depuis peu aux Baléares. Quand le jour, précisément, où est donnée une réception pour son prix du roman de l'Académie française, le général Franco et les nationalistes lancent un coup d'État et à Majorque, Bernanos se retrouve en pleine zone insurrectionnelle.
Monsieur Lebrun, après le coup d'État de Franco en juillet 36, les lecteurs de Bernanos n'attendaient-ils pas de leur écrivain préféré, basé de surcroît au Baléares, un soutien aux nationalistes?
Oui, mais il y a les faits. Quand débarquent les fascistes italiens venus prêter main forte aux nationalistes, et quand s'installe au Baléares une terreur sans raison, le regard de Bernanos change. En témoigne le livre terrible qu'il va publier, Les grands cimetières sous la lune.
Chaque nuit, des équipes recrutées opérèrent dans les hameaux et jusque dans les faubourgs de Palma. Où que ces messieurs exerçassent leurs ailes, la scène ne changeait guère. C'était le même coup discret frappé à la porte de l'appartement confortable ou à celle de la chaumière. Le même piétinement dans le jardin plein d'ombre ou sur le palier. Le même chuchotement funèbre qu'un misérable écoute de l'autre côté de la muraille. L'oreille collée à la serrure, le cœur crispé d'angoisse. Suivez-nous. Les mêmes paroles à la femme affolée. Les mains qui rassemblent en tremblant les hardes familières jetées quelques heures plus tôt. Et le bruit du moteur qui continue à ronfler là-bas, dans la rue. Ne réveillez pas les gosses, à quoi bon ? Vous me menez en prison, n'est-ce pas, Seigneur ? Perfectamente, répond le tueur qui parfois n'a pas 20 ans. Puis, c'est l'escalade du camion, où l'on retrouve deux ou trois camarades aussi sombres, aussi résignés. Le regard vague, ombré. La camionnette grince, s'ébranle, encore un moment d'espoir, aussi longtemps qu'elle n'a pas quitté la grande route. Mais voilà déjà qu'elle ralentit, s'engage en cahotant au creux d'un chemin de terre. Descendez. Ils descendent, s'alignent, baisent une médaille ou seulement l'ongle du pouce. Pan, pan, pan. Les cadavres sont rangés au bord du talus où le fossoyeur les trouvera le lendemain, la tête éclatée, la nuque reposant sur un hideux coussin de sang noir coagulé.
Notre seconde interlocutrice maintenant, la romancière Lydie Salvert. Elle regrette d'avoir lu Bernanos trop tardivement.
Par un préjugé imbécile, je pensais que l'œuvre de Bernanos était si étrangère à moi, si éloignée, pour mille raisons, qu'elle ne me parlerait en rien. Vous savez comment c'est, ce qu'on ignore nous fait peur. Et je lis Les grands cimetières sous la lune. Et là, j'ai une émotion. C'est un livre qui me mord, qui me gifle, qui me bouleverse. Mais comme vous ne pouvez pas l'imaginer, parce que tout ce que j'ai lu sur la guerre d'Espagne, et Dieu sait si j'ai lu Hemingway, Malraux, Claude Simon, qui d'autre,
un anglais. Et puis les historiens.
Les historiens. Je crois que jamais personne n'avait écrit sur la violence de la terreur franquiste comme il l'écrit, je trouve. C'est lui qui le dit le mieux, le plus brutalement, sans artifice. C'est, vous le recevez en pleine gueule. Ça fait partie d'un de ses livres qui m'a bouleversée, vraiment. Parce que précisément, ce qui me touchait, c'est que je m'attendais si peu d'un écrivain que je pensais monarchiste, catholique profond, etc., à ce qu'il puisse m'atteindre. Et voilà, c'est ça qui est beau, c'est que, en dépit de tout ce qui pourrait l'éloigner de moi, de nous, on ne peut ressentir qu'une immense fraternité, je trouve, devant cet homme. Et la lecture des grands cimetières me commande, mais vraiment, me contraint, mais vraiment, vraiment, à écrire « Pas pleurer ». Je m'en souviens parfaitement. Sitôt le livre refermé, j'écris la première phrase qui est restée jusqu'à la fin. Et je me suis dit tout de suite qu'il fallait faire se croiser cette voix de Bernanos avec la voix de ma mère, si différente. L'une d'ailleurs, celle de Bernanos, très belle, il est dans le bien-dire, il manie parfaitement la langue française avec des fulgurances magnifiques. Et la langue de ma mère, que je voulais au même niveau, vraiment au même niveau et pas en dessous, qui est tout le contraire, qui est une langue maladroite, une langue impure, une langue bâtarde, où le français et l'espagnol se marient plus ou moins bien. Et ce projet-là m'a emporté jusqu'au bout.
Et c'est ainsi que Lydie Salvert s'attelle à ce livre qui recevra le prix Goncourt en 2014, s'attelle à ce paradoxe. C'est parce qu'il est catholique que Bernanos maudit cette croisade qui répand, dit-il, le sang des pauvres, cette croisade noire, comme il y a des messes noires.
Ce qui peut-être le scandalise plus que tout, c'est la bénédiction de l'Église sur ces meurtres commis, sur ces évêques qui pataugent dans le sang pour bénir le front des assassinés. C'est ça, chez lui, qui se révolte. Ces gens qui sont si loin de l'Évangile qui lui est cher. Et il ne parviendra jamais, je crois, à comprendre cette attitude des catholiques en Espagne. Est-ce par peur, par lâcheté, par intérêt, il se reposera la question. Alors, dit-il qu'un seul murmure d'un archevêque aurait suffi à mettre fin à ce charnier. C'est quelque chose qui l'a infiniment troublé.
Depuis, Lydie Salvert n'a pas quitté Bernanos, surtout qu'elle le retrouve dans son dernier livre, Un dialogue avec Cervantes.
En relisant Le Quichotte, puisque j'ai fait l'éloge de Don Quichotte dans Rêver debout, je ne pouvais pas m'empêcher de penser, mais à tout instant, à la similitude des comportements entre Le Quichotte et Bernanos. Cette même intempestivité, cette même rage contre ce qui est injuste, contre ce qui vient bafouer la vérité. Cette même furie, même, parfois. Ce goût de la bagarre. Mais inspiré par la charité, par la bonté. Ils ont de la bonté, l'un et l'autre. Une inlassable bonté. Je trouve que on ne peut pas écrire sur Mouchette, dans la nouvelle histoire de Mouchette, si on n'est pas animé par un sentiment de bonté extraordinaire, je crois. Donc c'est une bonté en armes. C'est ça qui est beau chez les deux. C'est une bonté en armes. C'est une bonté qui ne baisse pas les bras. Et ils sont, et chaque fois, on pense que le Quichotte ne va pas en réchapper. On le bastonne, on l'injurie, on le frappe, on lui crache sur l'âme. Et chaque fois, il se redresse. Il se redresse parce que la force de son désir, sa force spirituelle, est plus grande que tous les maux de son corps.
On devine que Bernanos n'est plus le bienvenu en Espagne nationaliste. Il songe à quitter l'Europe même. L'Europe qui se couche devant Hitler, dit-il. Destination, l'Amérique du Sud. Il n'est pas le seul d'ailleurs. Écoutez Agustín Lara, qui de France a rejoint le même continent.
Qué triste cruzas por mi balcón, noche de ronda, cómo me hieres. Cómo lastimas mi corazón.
De tous les pays d'Amérique latine, Bernanos va finalement choisir le Brésil, assez francophone, très francophile. Et il va y aller de maison en maison. Alors la plus connue, au point d'être devenue légendaire, sauf que son toit s'est effondré au mois de juin dernier et que les autorités consulaires françaises feraient bien de la réparer, elle se situe au large d'une ville excentrée, pas plus grande que la main, au bout d'un chemin qui s'appelle, c'est prédestiné, le chemin de la croix des âmes.
La maison qu'il habitait avec les siens avait l'air d'une ferme française. La porte ouverte sur un mur orné du drapeau tricolore à la Croix de Lorraine, telle se présentait à notre arrivée l'habitation, déserte en apparence.
Ma maison n'est sans doute pas ce qu'ils attendent, mais elle leur appartient. Pour une maison ouverte, on peut dire de cette maison qu'elle est ouverte. Viens à nous qui veut, par le chemin qu'il veut. Les vachers en haillons sur leur haute selle, plus haillonneuse qu'eux-mêmes, avec des harnais de ficelle, l'unique éperon bouclé aux pieds nus. Les baïanais couleur de vieux cuir, les nègres errants couleur de poussière, ou le voisin qui a fait 60 kilomètres à cheval pour ramener une vache ferrée à notre marque et ne demande en retour qu'une assiette de feijão. Ils arrivent à l'aube, au soir, qu'importe. Le foyer de briques conserve la braise sur laquelle bout le haricot rouge et l'eau du rio, dorée par l'argile, reste au frais dans les jarres. Entre ces passants et nous, il n'y a rien. Rien qu'un mur de terre qui, du coucher au lever du soleil, aspire par tous les orifices, grands ou petits, l'air nocturne. Nous sommes dans les mains du passant, à sa merci. Le pas des chevaux sans fer ne sonne pas sur les cailloux. Les pieds nus trompent jusqu'à la vigilance des chiens. Nous sommes dans les mains du passant comme dans les mains de Dieu. Puissions-nous toujours ensemble, moi et mes livres, être à la merci des passants.
Oh, les livres, en avait-il encore beaucoup? Ils étaient en caisse. C'est l'effet de l'éloignement. Malgré la publication à retardement de ses articles, Bernanos se lance néanmoins dans la bataille journalistique comme se jetterait à l'eau un homme en feu. À Pétain, il ne trouve nulle excuse. Il faut oublier jusqu'à son nom. Du régime de Vichy, il dit « Il veut faire de la France un paisible potager afin de nourrir l'Europe totalitaire. » Des Français libres, il comprend que venant de tous les horizons, ils sont frères en lucidité, ainsi que le dit Lydie Salvaire.
Ils risquent leur vie, ils ont le sens de l'honneur. Mais il dit souvent que quand ils se réclament de l'honneur chevaleresque, il ne faudrait pas qu'on le prenne pour un antiquaire, dit-il, avec des éperons d'or, la nostalgie des éperons d'or, des rituels de passage, etc. C'est pas ça qu'il aime, évidemment, dans l'honneur chevaleresque. C'est le fait de ne pas se coucher, sans doute, devant le plus fort. Mais il dit aussi, vous voyez, j'associe, que le nombre lui fait aussi peur que la force. Que le pouvoir du nombre lui fait aussi peur que le pouvoir de la force. Le pouvoir du nombre, sur quoi reposent nos démocraties.
La France libre tarde à se déclarer comme une démocratie. Il lui faut pas mal de mois au général de Gaulle pour employer le mot.
Oui.
Et ce sont quelques-uns.
Mais bien sûr, une poignée d'irréductibles, de chevaliers, parmi lesquels ses fils.
Au Brésil, Bernanos s'est protégé par des amis et mécènes, dont le propriétaire d'autres journaux, qui le salarie et le publie avec une belle régularité. Il arrive même que ses messages parviennent jusqu'à Londres, jusqu'à l'équipe de l'émission de la BBC « Les Français parlent aux Français ».
Un grand écrivain français, Georges Bernanos, écrit « Du désastre de l'Europe, de l'écroulement des dictatures, de nos déceptions des divisés, peut surgir demain une génération d'hommes libres, d'hommes vraiment libres, et non pas sincèrement disposés à jouir des avantages de la liberté jusqu'au seuil de la servitude. Mais le tyran de l'Europe est un tyran de chair et de sang. La révolte de l'Europe aura, elle aussi, son droit de chair et de sang. Nous voyons la liberté se dégager peu à peu de ses définitions juridiques. Elle redevient humaine. Elle est de nouveau la compagne.
Eh oui, c'était pas facile d'écouter la radio à l'époque, depuis la France. C'était même risqué. Et puis vient la libération. Bernanos, votre place est parmi nous. Le général de Gaulle presse l'écrivain de rentrer. Ce qu'il finit par faire, refusant, évidemment, du général, tout poste que ce soit, même un fauteuil d'académicien. C'est pas maintenant qu'il va s'installer dans une fonction qu'il serait de toute façon incapable de tenir. La deuxième rencontre avec le général se terminera par ce propos de Bernanos. La France s'enfonce dans la merde, mais vous, vous vous tenez au-dessus. Plus tard, il arrivera à quelques hommes politiques de tenter d'autres citations de Bernanos. Valéry Giscard d'Estaing, Michel Rocard, Emmanuel Macron.
Je rappellerai ce qu'a dit Bernanos. C'est la fièvre de la jeunesse qui maintient le reste du monde à la température normale. Quand la jeunesse se refroidit, le reste du monde claque des dents.
Cette très belle phrase de Bernanos. Toute espérance est un risque.
Il y a une très jolie phrase de Bernanos, c'est que l'espérance, c'est le premier risque, c'est le risque des risques. Et c'est cela que nous allons faire.
Intelligence, service. France Inter.
Monsieur Lebrun, il semble de bon ton de citer Bernanos dans les discours politiques, mais n'est-il pas d'un autre temps ?
Bon, bah d'abord un préalable, si vous voulez bien. Il se trouve souvent quelqu'un pour mettre en question l'utilité de Bernanos aujourd'hui en prévenant « Attention, il serait resté antisémite ». La biographie de François Angelier répond à cette objection, disant « Oui, c'est étonnant de le voir commencer après-guerre un hommage aux morts du ghetto de Varsovie en citant avant tout autre Édouard Drumont, l'auteur de La France juive, l'antisémite professionnel. » Mais, ajoute Angelier, c'est plus fort que lui. Il revient aux lectures de sa jeunesse comme on reviendrait à son vieil instituteur. Mais le mot « question juive », malvenu de nos jours, il l'emploie. Sartre aussi l'utilisait à l'époque. Et le mot « race juive », alors Bernanos dit « Je rougirais d'écrire que le problème juif n'est qu'un problème religieux. Il y a une race juive, ce qui signifie qu'il y a une sensibilité juive, une pensée juive de la vie, un sens juif de la vie, de la mort, de la sagesse et du bonheur. » Et reprenant le vocabulaire d'un autre de ses maîtres, moins malvenu que Drumont, Léon Blois, il ajoutait « La race juive a fait monter le niveau de l'humanité comme une retenue peut faire monter le niveau d'un fleuve. » De toute façon, le vieux Bernanos, en rentrant dans son pays, en train, avait eu beau se pencher à la portière pour le reconnaître, il n'en était pas toujours compris. Et voici une conférence, par exemple, en 46. Ça peut paraître tournoyant, voire halluciné. Bernanos imagine des escadrilles de mains qui surgissent de partout.
Des mains, toujours des mains pour prendre, des mains partout. Ce siècle à main, comme disait jadis Rimbaud, toutes les mains, mains dures et mains molles, mains noires et mains blanches, petite main de velours rose aux gris flaqués, ou forte main de cuir, main trapue, main courteau, main longue, main blême, main d'écolier tachée d'encre, main velue, main lisse. Nous les voyons toutes partout courir sur leurs seins d'oies agiles, sortant d'une poche pour rentrer dans l'autre, vive comme l'éclair. Tapis dans un coin d'ombre, ou rampant doucement sous la table, grimpant le long des murailles, collés au plafond, à la manière des mouches, afin de tomber au bon moment sur la nappe et de s'enfuir avec leur proie. Les mains qui filent le long du trottoir et sur lesquelles on risque toujours de poser le pied par mégarde, les mains dont le souvenir vous hante la journée faite, au point qu'on craint d'avoir tombé chaque soir de la poche de son pantalon avec la vue monnaie en se couchant et se réfugier sous le lit. Cette image ne me laisse pas de repos. La France étouffe sous l'épaisseur de ses mains plus avides que les sauterelles et les fourmis. Ses mains humaines, qu'on dirait détachées de l'homme peut-être pour toujours, vivant de leur vie propre, de leur vie de main, des mains non baptisées, des mains humaines, devenues comme étrangères à l'homme pensant des manuels de philosophie, les mains d'une future civilisation de main, d'une civilisation termitière édifiée par des mains termites.
Une image vient à l'esprit, c'est celle d'un film de Bresson. Bresson, c'est le cinéaste qui a le mieux compris Bernanos. Le film « L'argent », des mains manipulent un gros billet, se le passe, et ce billet, il est maudit. Parce que les mains deviennent des outils. Et les hommes, à leur tour, deviennent des outils de leurs outils. Depuis longtemps, Bernanos protestait contre la fordisation de la société. C'était déjà un des thèmes des grands cimetières. C'est le thème de La France contre les robots, 1947.
C'est un livre visionnaire. C'est un livre où déjà il voit l'homme devenant l'outil de son outil. Je crois que c'est comme ça qu'il le dit. L'homme devenant l'outil de son outil, vous rendez compte. Il dit, je crois, quelque part, vous entendez une voix à la radio, et cette voix, un jour, sera la voix de votre maître et vous dira ce qu'il faut dire et faire.
Alors attendez, vous voulez dire que nos voix à la radio seront remplacées par des robots? C'est tout à fait pensable.
Je pense que la grande crainte de Bernanos est en train de se réaliser sur cet effet des machines. Je crois qu'il fait le lien entre la machine et l'argent, la machine pour faire que l'outil rapporte. Et donc si la révolution a lieu, comme il l'espère, peut-être que le fric ne dominera pas le monde et les machines auront un autre usage.
Alors attendez, il espère la révolution.
Mais oui, il le dit. Je crois, ou je me trompe?
Ce qu'il refuse, c'est d'une certaine façon de laisser, j'ai envie de dire, les clés, non pas à l'ingénieur, mais à la machine. C'est-à-dire que la machine, dans son accroissement, et ce véritable impérialisme qu'elle finit par générer sur cette terre, finit par non seulement contrôler l'homme, mais à créer l'homme dont elle a besoin. C'est surtout ça pour Bernanos, c'est-à-dire que c'est plus l'homme qui contrôle la machine, c'est la machine qui non seulement finit par imposer son diktat, ses obligations à l'homme, mais en même temps, on le sent, créer l'homme dont elle a besoin pour s'accroître, pour accroître sa puissance.
Et la machine va devenir enregistreuse de tous nos mouvements. Pour acheter un billet de train, il faut donner sa date de naissance.
Alors là, autre aspect de l'actualité bernanosienne, sa haine viscérale de toute forme d'identification, de quadrillage, de repérage et de fichage numérotage policier. Tout ce qui peut ressembler à une sorte de mise en fiche de l'individu, même la sécurité sociale, même la retraite éventuelle, je ne sais. Bon, et il le dit à la fin de la guerre, il dit « je ne suis inscrit nulle part, heureusement ». Et donc, il y a un refus absolu de toute forme, même au point même, je pense que le fait qu'il ait, par exemple, qu'il n'ait pas scolarisé ses enfants, ou très peu, participe de cette volonté d'être un homme libre, vivant sur sa terre libre, et s'y livrant à une activité, certes en lien avec celle de la communauté, mais quand même autonome et en totale liberté. Oui, non, ça, c'est évident que, pour lui, Bertillon, c'est Satan, quoi.
Bertillon, l'inventeur de la police scientifique. Un extrait de La France contre les robots.
Le petit bourgeois français n'avait certainement pas assez d'imagination pour se représenter un monde comme le nôtre, si différent du sien. Un monde où, à chaque carrefour, la police d'État guetterait les suspects, filtrerait les passants, ferait du moindre portier d'hôtel responsable de ses fiches son auxiliaire bénévole et public. Mais tout en se félicitant de voir la justice tirer parti contre les récidivistes de la nouvelle méthode, il pressentait qu'une arme si perfectionnée, aux mains de l'État, ne resterait pas longtemps inoffensive pour les simples citoyens. C'était sa dignité qu'il croyait seulement défendre, et il défendait avec elle nos sécurités et nos vies. Depuis 20 ans, combien de millions d'hommes en Russie, en Italie, en Allemagne, en Espagne ont été ainsi, grâce aux empreintes digitales, mis dans l'impossibilité non pas seulement de nuire aux tyrans, mais de s'en cacher ou de les fuir. Et ce système ingénieux a encore détruit quelque chose de plus précieux que des millions de vies humaines. L'idée qu'un citoyen qui n'a jamais eu affaire à la justice de son pays devrait rester parfaitement libre de dissimuler son identité à qui il lui plaît, pour des motifs dont il est seul juge ou simplement pour son plaisir. Que toute indiscrétion d'un policier sur ce chapitre ne saurait être tolérée sans les raisons les plus graves. Cette idée ne vient plus à l'esprit de personne.
Autre question d'actualité, l'Europe, qu'en dit-il ? Il tient conférence à Genève, en Suisse, en 1946. Conférence assez violente, où il explique que le tribunal de Nuremberg a peut-être tort de mettre en accusation l'Allemagne tout entière, parce que c'est l'Europe qui a perdu son honneur en se vouant au régime totalitaire. Et retrouver cet honneur, toujours l'honneur, est indispensable si l'Europe veut encore répondre aux questions, aux attentes du monde.
Mesdames, messieurs, l'Europe a perdu confiance en elle-même. Et sans cette confiance, il n'y a pas d'esprit européen. L'esprit européen, c'était cette foi que l'Europe avait en elle-même, en ses destinées, en sa mission universelle. Elle l'a perdue. Il y a des millions d'hommes qui souffrent de l'abaissement, de l'humiliation de l'Europe. Vous les voyez s'éloigner de nous, c'est vrai, mais ils s'en éloignent à pas lents. Car dans le fond de leur cœur, ils pressentent que le dernier mot n'est pas dit, que l'histoire du plus illustre continent de l'univers peut s'achever dans ce chaos.
On peut penser à l'Afghanistan. Combien d'Afghans, combien d'Afghans ont été lancés par nous sur la voie de la démocratie et abandonnés en route.
Il dit aussi que le déshonneur, c'est ne pas tenir sa promesse. Et il dit souvent que les démocraties n'ont pas tenu leurs promesses, qu'elles ont avorté de leurs projets. Il est pas tendre avec les démocraties. En tout cas, telles qu'elles se sont comportées avant et après-guerre. Il dit qu'elles sont aux mains du plus fort ou du plus rusé, souvent. Faiblesse des démocraties, et qui se vérifie aujourd'hui, pour faire un parallèle avec l'Afghanistan. L'Afghanistan, franchement. Non, mais ça me fait incroyablement penser, je ne sais pas si vous le retiendrez, mais ça me fait incroyablement penser les accords de Munich, cet échec, cette faiblesse des démocraties aujourd'hui. Comment n'ont-elles pas compris, enfin, comment n'ont-elles pas anticipé? Enfin bon, bref, on sort du sujet, mais je ne peux qu'y penser.
Maintenant, ces forces abandonnent Bernanos. Il lui reste la question. Comment vais-je faire pour mourir? Son dernier texte se situe au Carmel de Compiègne, un peu avant la Révolution française. La vieille prieure est près de sa fin.
Ayez la bonté de relever ce coussin. Pensez-vous que M. Javelineau permettra que l'on m'installe dans ce fauteuil? C'est une grande peine pour moi de me montrer à mes filles ainsi tendue comme une noyée qu'on vient de tirer de l'eau, alors que j'ai si bien gardé toute ma tête. Qu'en fait si misérablement défaut le courage? Il faudrait être au moins capable de composer son maintien.
J'ai cru comprendre, ma mère, que vos angoisses étaient bien apaisées cette nuit.
Ce n'était qu'un assoupissement de l'âme. Tu en sois pourtant remercié. Je ne me voyais plus mourir. Se voir mourir passe pour n'être qu'un dicton de bonnes gens. Eh bien, ma mère, c'est vrai que je me vois mourir. Rien ne me distrait de cette vue. Certes, je me sens touchée de vos soins, j'y voudrais répondre, mais ils ne me sont d'aucune aide. Je suis seule, ma mère, absolument seule, sans aucune consolation. Certes, mon esprit reste parfaitement capable de former des idées rassurantes, mais ce sont aussi des fantômes d'idées. ne sont pas plus capables de me réconforter que ne pourrait rassasier l'ombre d'un gigot sur le mur. Parlez-moi franchement, ma mère. Combien de jours Monsieur Javelineau me donne-t-il encore à vivre? Votre tempérament est des plus forts qu'il ait vu. Il craint pour vous un passage lent et difficile. Mais Dieu, mais Dieu s'est fait lui-même une ombre. J'ai plus de 30 ans de profession, 12 ans de supérieurat. J'ai médité sur la mort chaque heure de ma vie. Et cela ne me sert maintenant de rien.
Il se voyait, alors il a eu une vision de sa mort et peut mourir comme les héros de sa jeunesse, une espèce de mort à l'écart, comme il avait vécu. Mais en définitive, non, il est mort à l'hôpital américain de Neuilly en 1948. Entouré, Malraux est venu le voir et il est mort dans une atmosphère d'ailleurs de fête. Enfin, il demandait à boire du champagne, il chantait la Marseillaise en revenant du bloc opératoire. Il n'est pas du tout mort dans la peur, la tristesse de l'agonie.
Aux obsèques à Saint-Séverin, il n'y a pas foule parce qu'il est insupporté bien des gens, mais ceux qui sont là, Malraux toujours, sont vraiment atteints. Et une délégation de républicains espagnols déploie sur le cercueil les trois couleurs de leur drapeau. Remerciements à François Angelier qui vient de publier au Seuil Bernanos, la colère et la grâce. À Lydie Salver qui vient de publier au Seuil Rêver debout après, pas pleurer. Les lectures Grégoire Roqueplot. On a entendu Gérard Depardieu dans le rôle de l'abbé Denisan, René Faure dans le rôle de la mère Prieur, la prise de son Virginie Corda, à la maison de la radio et de la musique Clément Vuillet, les agents d'intelligence service Frédéric Martin et Franck Olivard, la réalisation Audrey Ripouille.